Europe 1. Europe 1, on de la traconte.
Bonjour à tous. On me demande souvent, à votre avis, pourquoi les gens s'intéressent-ils aux histoires criminelles ? Et invariablement, je réponds, les gens s'intéressent aux histoires auxquelles ils peuvent s'identifier. Eh bien, voici une histoire à laquelle vous n'aurez aucun mal à vous identifier. C'est une affaire criminelle de 1994, l'affaire Lubin. L'histoire d'un jeune couple, Magali Guillemot et Jérôme Duchemin, qui ne s'aimaient pas. Deux oseaux qui s'étaient mariés, on ne sait pas bien pourquoi. Et à la fin, y a un mort, un petit bébé de 2 mois qui s'appelait Lubin, un petit enfant martyr. Qui l'a tué ? Qui l'a frappé jusqu'à le tuer ? Sa mère ou son père ? Magali ou Jérôme ? Pour le débrief tout à l'heure, j'ai invité un acteur direct de cette affaire. Bonjour Philippe Bilger.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous êtes rangé des voitures, comme on dit, mais pendant longtemps, vous avez été avocat général à la Cour d'assises de Paris et vous avez plaidé dans cette affaire. Je ne dis rien d'autre pour ne pas spoiler, comme on dit, cette histoire. C'est une histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras.
14h-15h, on de la traconte sur Europe 1.
Le 5 décembre 1994, un petit bébé de 2 mois, prénommé Lubin, meurt aux urgences pédiatriques de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, à Paris. Œdème cérébral. Ça faisait 3 jours qu'il était dans le coma. Quand il est arrivé, les médecins lui ont fait passer une radio. Ils ont compté 5 fractures, certaines très récentes, mais d'autres qui pourraient remonter à 15 jours. Lubin a donc été martyrisé jusqu'à en mourir. Qui lui a fait ça ? Sa mère, Magali Guillemot, elle est ingénieure au commissariat à l'énergie atomique. Elle a fait centrale, elle n'a pas le profil. Son père alors, Jérôme Duchemin, il est musicien professionnel, altiste, il n'a pas le profil non plus. Quoi qu'il en soit, l'hôpital a prévenu la police. Il va falloir qu'ils s'expliquent, tous les deux. 3 jours après la mort de Lubin, sa mère Magali et son père Jérôme sont donc placés tous les deux en garde à vue. On va bien voir si l'un d'eux a quelque chose à dire et surtout si l'un d'eux a des doutes sur l'autre. Ils sont évidemment interrogés séparément. La mère se retrouve face à une femme capitaine de police. L'idée est de la jouer entre femmes, bien sûr. Mais ça n'a aucun effet. Aucun. Il n'y a rien qui vous revient, Madame Guillemot. Une chute, un instant d'inattention, ça arrive à toutes les mères, vous savez. Écoutez, mon enfant n'a que 2 mois. 2 mois, c'est pas long. S'il y avait eu quelque chose, je m'en souviendrai. À part ça, elle dit que Lubin était fragile, qu'il a fallu les forceps pour l'accoucher, qu'après la naissance, il a fait une jaunisse. Mais à part ça, elle ne voit pas. Vous voulez que je vous dise ce que ressentent les policiers à ce moment-là ? Il la trouve froide. Elle les prend de haut. Et puis, elle dit qu'elle n'a pas d'explication, mais elle n'a pas l'air d'en chercher. Étrange maman, étrange femme. Voilà ce qu'ils se disent. Et le père alors ? Le père, dans le bureau d'à côté, il est effondré. Mais contrairement à sa femme, il cherche une explication. Je ne sais pas si c'est ça. Moi, je ne me rends pas compte de ce qui est grave pour un bébé. C'était mon premier, vous savez. Voilà, un jour, je chauffais son biberon, sa tête a tapé contre la porte du four à micro-ondes. J'ai cru que c'était sans gravité. Vous pensez que ça peut être ça ? Non. Non, ça ne peut pas être ça. On ne fait pas 5 fractures à un bébé en heurtant par accident la porte du micro-ondes. Alors on les remet tous les deux en cellule, chacun dans leur coin, et les policiers vont voir les voisins. Et ils tombent sur Isabelle, la voisine d'en dessous. Magali, elle m'a montré plusieurs fois son bébé, elle faisait tout bien comme il faut, elle s'occupait bien de lui. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut que je vous dise. 5 jours avant la mort de Lubin, le 30 novembre, je me souviens, je suis passé chez elle. Le bébé avait 2 gros bleus au visage et un œil injecté de sang. C'est embêtant, non ? C'est embêtant, en effet. En fouillant chez Magali et Jérôme, les policiers tombent sur des appareils photos. Dedans, il y a des pellicules. Ils les font développer. Et par chance, l'une des photos a été prise le 30 novembre. Et effectivement, c'est pas flagrant, mais en regardant bien sur la photo, on voit deux bleus. Le premier entre les yeux et l'autre sur le front. Et ça, vous noterez que ni la mère ni le père n'en ont parlé jusqu'ici. Alors on leur colle la photo sous le nez. Cette photo a été prise le 30 novembre, 5 jours avant la mort de votre fils. Vous voyez les bleus là ? Et là ? Une explication ? Aucune explication. La mère dit que le 30, elle se souvient, elle a vu le médecin, le bébé crachait du sang, le docteur a dit que c'était une ésophagite. C'est tout ce qu'elle a à dire. Et le père ? Le père, je vous l'ai dit, il est musicien, altiste. La journée, il donne des cours d'alto, et le soir, il répète et il joue dans différents orchestres. Le 30, il n'a pas vu son fils. Quand il est rentré, le bébé était déjà couché. Fin de la garde à vue. On n'est pas très avancé. On ne peut pas dire si c'est le père ou si c'est la mère, ou si c'est les deux. Et dans le doute, la juge les met tous les deux en examen. Et elle les expédie tous les deux en prison, à Versailles. Dans cette enquête, tout reste à faire.
Europe 1, on de la traconte.
Imaginez la tête de leurs amis, la tête de leur famille. On n'est pas chez les Cassos. Les gens ont du mal à envisager qu'une ingénieure sortie de centrale et un altiste sorti du conservatoire aient pu massacrer un bébé de 2 mois. Et puis franchement, ils n'ont rien vu venir. Pour tout le monde, Magali et Jérôme formaient un couple exemplaire. Mais à y regarder de plus près, ça n'est pas un couple ordinaire non plus. Ils ont raconté à tout le monde qu'ils se sont rencontrés à un concert. Ils ont menti. Ils se sont connus par agence matrimoniale. Et après, c'est allé très vite. Présentation aux deux familles. Et 3 mois après, ils vivent ensemble. Et ils annoncent leur mariage. Et avant le mariage, Magali tombe enceinte de Lubin. Donc c'est un coup de foudre ? Eh bien, pas vraiment. La mère de Magali vient raconter qu'il y avait du temps gage dans le couple, pile au moment où sa fille est tombée enceinte. Mais le mariage était payé d'avance, alors elle lui a demandé de faire un effort. Ça s'appelle se marier pour de mauvaises raisons. La mère de Magali dit aussi que la naissance de Lubin a été une révélation pour sa fille, qu'elle a eu d'un coup un instinct maternel, avec un bémol tout de même. Ma fille n'avait pas l'instinct de possession pour Lubin qu'ont certaines mamans. Magali le laissait aller de bras en bras. Elle ne le couvait pas. Les policiers vont aussi voir Sophie, la meilleure amie de Magali. Elles se connaissent depuis la prépa. Elles ont passé toutes leurs études dans la même CTU. Ah ben Magali, c'est quelqu'un de stable. Avoir fait du mal à son bébé, c'est impossible. Ça lui ressemble pas. Après, il ne faut pas oublier que Lubin était un enfant fragile, vous savez. Il est né préma, de 5 semaines, il avait une jaunisse. Alors c'était vraiment un tout petit nourrisson. Il était sûrement plus fragile que la moyenne, non ? Du côté de Jérôme, les policiers apprennent que lui s'est marié après un gros chagrin d'amour. Il n'a pas eu celle qu'il voulait. Ses copains disent qu'il s'est marié avec Magali par dépit. Décidément, entre la mère qui envoie sa fille se marier sous prétexte qu'elle a payé le buffet d'avance et l'autre qui se marie pour soigner un chagrin d'amour, c'était mal barré, cette affaire. Et là, il faut réaliser que le bébé arrive juste après le mariage, prématuré, 5 semaines d'avance. Ça situe le décor de ce drame. Ce couple n'était pas serein. C'était un couple raté, ils n'avaient rien à faire ensemble et la naissance du gamin n'a rien arrangé, mieux que ça. Elle a concrétisé le désastre. En mettant bout à bout les témoignages de l'entourage, les policiers parviennent à reconstituer les 2 mois de la courte vie de Lubin. Au début, Jérôme reste à la maison pour aider sa femme pendant son congé maternité. Mais assez vite, il reprend le boulot, ses cours de musique dans la journée et ses répètes et ses concerts le soir. À partir de ce moment-là, quand il rentre, la plupart du temps, Lubin dort déjà. Et d'après les médecins légistes, les premières fractures sur le corps de Lubin datent pile de cette époque-là, de l'époque où le père recommence à travailler. C'est facile à dater, puisque sur les radios, on voit que les os ont commencé à se recalcifier. Donc, les premiers coups portés à Lubin correspondent au moment où son père ne le voit quasiment pas. Et là, de deux choses l'une. Ou bien la mère se met à le martyriser parce que son mari est absent, ou bien c'est le père qui se met à le martyriser justement parce qu'il est absent, parce qu'il fuit et son couple et son enfant. Mais dans la tête de la juge, soyons clairs, il y a une chose qui les différencie définitivement et qui la fait plutôt pencher pour la culpabilité de la mère. Lui cherche une explication. Pas elle. Monsieur Duchemin, avez-vous eu, oui ou non, des gestes violents avec votre fils ?
Oui, je crois que j'en ai eu, oui. J'ai sans doute fait ce qu'il ne fallait pas faire. Je lui ai fait faire l'avion. Et puis la vérité, c'est que je suis un caractériel, ça c'est vrai. J'ai des gestes qui sont brusques, je le sais ça. J'ai eu un mauvais père, je lui ai sans doute fait du mal.
En disant cela, le père s'accuse. Mais en disant cela, il dit aussi qu'il mesure la fragilité d'un nouveau-né. Alors qu'elle ? Pas du tout. Jamais. C'est très troublant. Et depuis qu'ils sont en prison, c'est pareil. Ils ne réagissent pas du tout de la même manière. Lui, Jérôme, écrit à Magali des lettres d'amour. Tellement enflammées que les policiers qui lisent toutes les lettres se demandent s'il n'est pas devenu zinzin. Alors que elle, dans les lettres qu'elle adresse à son mari depuis sa prison, elle parle de divorce, elle est froide. En détention aussi, elle est froide. Les surveillants le confirment. Et tout ça, mis bout à bout, explique qu'à ce stade de l'enquête, la juge penche plutôt pour la culpabilité de la mère. Mais qu'importe, puisque la juge a demandé sa mutation, elle vient de l'obtenir, ça n'est pas elle qui va boucler l'instruction. Ça fait 14 mois que le père et la mère sont en prison, quand tombent les expertises complètes des médecins légistes qui ont eu à examiner le corps du petit Lubin. Et c'est encore pire que tout ce qu'on pouvait imaginer. Ils racontent que les os d'un bébé de 2 mois sont élastiques, sont souples, que si vous le frappez une fois, au tibia par exemple, il ne cassera pas. Il faut plusieurs coups pour casser les os d'un bébé, il faut s'acharner. Donc, ça n'est pas le fait que le père ait fait l'avion avec son fils qui a pu le tuer. Et Lubin avait les 2 tibias fracturés. Les 2. Je vous l'ai dit, la juge d'instruction a demandé et obtenu sa mutation. C'est toujours dommage dans un dossier de changer de juge, mais vous devez savoir que la mutation est la seule manière pour un magistrat d'obtenir de l'avancement. C'est l'une des plaies de la justice française. On n'en parle jamais. Mais passons. La nouvelle juge s'appelle Isabelle Mouek et elle doit donc se tortiller le dossier depuis le début. Et elle décide d'organiser une confrontation dans son cabinet entre le père et la mère. Le face-à-face dure 7 heures. 7 heures dans son bureau. Et pendant 7 heures, ils ne se regardent pas, ils ne se parlent pas. Mais ce qui frappe le plus la juge, c'est la manière dont ils se comportent tous les deux, très différemment. Le père, il pleure. Il est affecté.
On ne saura jamais. C'est dégueulasse. On ne saura jamais ce qui s'est passé. C'est dégueulasse pour Lubin.
Alors que la mère est détendue, décontractée. Elle sourit même parfois. Et la juge, ça l'énerve.
Madame Guimau, je tiens à vous rappeler que c'est de la mort de votre fils de 2 mois, Lubin, que nous parlons. Oui, je sais, madame la juge. Que voulez-vous savoir sur la mort de Lubin ?
La mère est à côté de la plaque, du début à la fin de la confrontation. Elle est froide, elle est glaciale, comme d'habitude. Ça fait 7 heures qu'ils sont côte à côte dans le cabinet de la juge, quand la substitut du procureur, Jacqueline Amara, qui est là dans un coin, s'adresse au père.
« Monsieur Duchemin, pourriez-vous m'expliquer pourquoi vous portez encore votre alliance ? L'alliance d'une femme qui ne vous adresse plus la parole. L'alliance d'une femme qui vous accuse d'un crime terrible. Qu'avez-vous à en faire de cette alliance, à présent, monsieur Duchemin ?»
Jérôme Duchemin marque un temps, très long, et il fait une réponse bizarre.
« Je viens de comprendre que c'est elle. C'est elle qui l'a tuée. »
Il ne dit rien de plus. Il n'explique pas comment il est arrivé à cette conclusion. Fin de la confrontation, qui n'a pas apporté grand-chose, si ce n'est confirmer que la mère est étrangement froide et le père plus sincère. Et ça a une conséquence, ça. Le père est relâché dans l'attente du procès, alors que la mère, Magali Guillemot, reste en prison. C'est à ce moment-là que les parents de Magali choisissent d'offrir à leur fille l'un des meilleurs avocats de l'époque, Maître Paul Lombard. Excellent choix. Dans la seconde où il prend ce dossier, Lombard comprend que si sa cliente va aux assises avec les menottes, alors que son mari arrive aux assises libre, eh ben elle est cuite. Donc, il veut la faire sortir de prison à tout prix. Et il y parvient. En octobre 1996, Magali Guillemot sort à son tour de prison. Bravo Paul Lombard. À la veille du procès, ils sont donc libres, tous les deux. Ce qui les met sur un pied d'égalité. Enfin, pas tout à fait. Parce que quand elle a bouclé son dossier, la juge ne les a pas du tout mis sur un pied d'égalité. Elle accuse la mère de crime par maltraitance habituelle ayant entraîné la mort et le père de non-assistance à personne en danger. Ça n'est pas du tout la même chose. Il risque beaucoup moins qu'elle. Maître Lombard s'agite, Maître Lombard se démène, il fait appel de l'ordonnance de renvoi de la juge, et finalement, la cour d'appel de Versailles décide de les remettre sur un pied d'égalité. Ils seront jugés, tous les deux, pour crime par maltraitance ayant entraîné la mort. Ce sont donc les jurés qui vont décider si c'est elle ou si c'est lui. Et ils se retrouvent donc côte à côte sur le banc des accusés. Enfin, côte à côte n'est pas la bonne expression, on dirait plutôt dos à dos. Ils ne se regardent pas, ils ne se parlent pas, ils se tournent le dos et ils s'accusent mutuellement. Moment douloureux quand un expert vient avec une poupée expliquer tous les sévices qu'a subi le petit Lubin. Ce qui ressort de ces 4 jours d'audience, c'est que le bébé reçoit ses premiers coups pile au moment où le père, après le petit congé maternité qu'il s'est accordé, recommence à travailler. À partir de ce moment-là, son emploi du temps détaillé le démontre, il rentre trop tard le soir, il ne voit plus son fils, Lubin passe donc ses journées et ses soirées, en tête-à-tête avec sa mère. Ce qui explique qu'à la fin, l'avocate générale, Jacqueline Amara, réclame 20 ans pour la mère et l'acquittement pour le père. Les jurés se retirent et après 3h30 de délibéré, ils rendent leur verdict.
C'est ce que l'on appelle l'intime conviction. Pendant 4 jours, Magali Guillemot et Jérôme Duchemin n'ont pas craqué. Ils se sont renvoyés la responsabilité de la mort de leur petit garçon de 2 mois. Les jurés ont mis 3h30 pour trancher, 15 ans de prison pour elle, l'acquittement pour lui. À l'énoncé du verdict, la mère n'a pas scié, le père a versé une larme.
C'est elle qui a tué son fils. Voilà ce que disent les jurés. Lui n'y est pour rien. Et le soir même, Magali Guillemot retrouve le chemin de la prison. Mais elle fait appel. En l'an 2000, c'est tout nouveau qu'on puisse faire appel d'un jugement de cour d'assises. Et là, il va se passer quelque chose de très inhabituel, d'unique même. Maître Paul Lombard obtient la libération de sa cliente dans l'attente du deuxième procès. Ça ne s'est jamais vu. Mais Lombard ne se contente pas de faire appel. Il œuvre pour la libération de sa cliente. Et le 19 décembre, coup de théâtre.
La loi, c'est la loi, aussi choquant que cela puisse paraître. Magali Guillemot, condamnée à 15 ans de réclusion criminelle le mois dernier pour la mort de son bébé de 2 mois, a retrouvé la liberté.
Elle Et là, vous devez savoir qu'il y a une petite suspicion autour de cette libération entre les deux procès. Paul Lombard, qui était franc-maçon, aurait attendu que l'un de ses frères magistrats soit aux affaires pendant les vacances pour demander la libération de sa cliente. Mais le jour où j'ai osé lui parler de cette étrange coïncidence, je me souviens qu'il a failli m'étrangler. Bref, il y aura un deuxième procès. Avec elle, mais sans lui. Lui, il est définitivement innocent. L'appel ne le concerne pas. Le procès en appel s'ouvre à Paris le 12 novembre 2001. Et Magali Guillemot se retrouve donc seule dans le box. Jérôme viendra, mais seulement comme témoin. Et assez vite, on s'aperçoit que Magali a retenu la leçon du premier procès. Elle, qui était froide comme la pierre, se met à dire « mon bébé, mon amour » quand elle parle de Lubin. Mais à part ça, elle n'a pas changé de ligne. Elle n'a rien fait, c'est Jérôme qui a tué Lubin. À la fin, l'avocat général Philippe Bilger prend la parole.
Madame Guillemot est une femme intelligente et désespérée. Désespérée par sa relation amoureuse. Je ne crois pas à l'existence d'un mobile extérieur à ce couple. Elle voulait se venger de ce qu'était devenu sa vie, de sorte qu'elle est à la fois coupable et victime, mais coupable. Et c'est pour cela que je vous demande de la condamner à 10 ans de réclusion criminelle.
Le jury délibère pendant 7 longues heures, avant de rendre un verdict parfaitement conforme aux réquisitions de Philippe Bilger. Magali Guillemot est condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Elle a gagné 5 ans en faisant appel. Et là, qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Elle se lève, elle met son manteau, je vous rappelle qu'elle compare est libre, hein, et elle se dirige vers la porte pour partir, alors qu'elle vient d'être condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Les policiers doivent la rattraper et elle file en prison. Mais pas pour longtemps. Elle se pourvoit en cassation, c'est sa dernière chance, obtenir un troisième procès. Et là, on hallucine. Maître Lombard obtient une fois de plus sa libération. Dans l'attente du jugement de cassation, il obtient qu'elle sorte de prison. C'est incroyable, c'est absolument inhabituel. Ça s'appelle avoir le bras très long. Mais le pourvoi en cassation est finalement rejeté et elle va purger sa peine. Elle est sortie, bien sûr, depuis. Voilà donc pour ce récit. Je suis avec Philippe Bilger pour le débriefer. Vous pouvez juste me dire maintenant si vous avez pardonné mon imitation.
Oui, parce que vous l'avez fait très gentiment.
Bon, elle n'était pas mauvaise.
Et surtout, vous n'avez pas dénaturé mes propos.
C'est l'essentiel. Voilà. Le débrief de Philippe Bilger dans l'affaire Lubin. Et Philippe Bilger, vous avez été avocat général au deuxième procès de Magali Guillemot. Vous avez demandé 10 ans, les jurés vous ont suivi au millimètre. Pourquoi 10 et pas 20, comme l'avait demandé votre consoeur Jacqueline Amara aux assises de Versailles en première instance? Comment est-ce qu'on choisit le quantum de la peine?
Parce que, comme vous l'avez excellemment démontré, Christophe Andelat, en m'imitant, j'ai tiré les conséquences du fait que je la considérais à la fois coupable et victime. Et à partir de là, il me semblait que 15 ans de réclusion était peut-être excessif et j'ai préféré demeurer sur un registre plus équilibré, me semble-t-il, de 10 ans. Mais évidemment, sans aucune certitude scientifique, sinon que j'avais déjà la base d'une première décision et qu'après réflexion, j'ai choisi donc cette sanction que vous évoquez.
Victime, pourquoi ?
Mais parce qu'en réalité, le compte-rendu qui a été fait me paraît très remarquable. Il rejoint les souvenirs que j'avais de cette affaire intense. Parce que j'ai analysé Magali Guimau comme une femme qui avait connu une triple déception. Au fond, la déception d'une fille qui avait des rapports difficiles, voire douloureux avec ses parents. La déception d'une épouse qui a été très vite délusionnée par un mariage avec un mari qu'elle n'aimait plus, qu'elle n'a pas aimé profondément. Et la déception surtout fondamentale d'une mère qui a vu apparaître à naître ce petit Lubin avec cinq semaines d'avance. Et si je me souviens bien, il lui était parfois reproché d'avoir traité ce petit de petit taré. Donc nous avons là une triple déception, totalement compréhensible, me semble-t-il, sur les deux premiers plans, qui faisait de Magali Guimau une victime qui a, pour régler son problème, a sans doute commis à plusieurs reprises des violences.
C'est un baby blues qui a dégénéré, en fait.
Oui. Mais sur le long terme, entendons-nous, parce que comme cela a été très bien dit, lorsque le couple est ensemble, il n'y a pas de violence. Lorsque, évidemment, elle se retrouve seule, il y a des violences qui probablement n'ont pas été quotidiennes. Mais dans mes souvenirs, il y en a trois ou quatre qui renvoient des épisodes très précis et sans doute extrêmement violents. Et il y a quelque chose qui m'avait frappé, c'est que lors de ces deux mois, parfois elle tentait d'aller vers les hôpitaux comme si elle voulait adresser un message. Et malheureusement, on ne le comprenait pas, on ne l'écoutait pas.
Si vous aviez pensé à n'importe quel moment de ce procès que Magali Guimau était innocente, vous auriez requis son acquittement.
Absolument. On peut me reprocher beaucoup de choses sur le plan de la liberté d'expression ou de comportement judiciaire, mais je n'aurais eu aucune difficulté à requérir l'acquittement et à dire qu'il y avait un doute qui devait lui bénéficier. Simplement, j'ai senti dans ce réquisitoire à quel point il a été plus long qu'à l'ordinaire. Parce que je devais combattre quelque chose qui s'était déroulé entre les deux procès et qui était notamment la partialité médiatique absolue au détriment de Jérôme Duchemin et en faveur de Magali Guimau. C'est-à-dire que la plupart des médias considéraient que c'était un scandale d'avoir acquitté Jérôme Duchemin et que c'était lui le coupable. Donc il a fallu que je parle de ça tout de même dans le cadre de mon réquisitoire.
Une question technique et presque générale, mais quand vous décidez du quantum de la peine que vous allez demander devant la cour d'assises, vous êtes forcément obligé de tenir compte de la position du parquet. Vous êtes un magistrat du parquet à l'origine. Vous avez été procureur. Si le procureur, pendant toute l'enquête, a dit c'est la mère, vous pouvez pas aller dire la mère est innocente.
Ah, tout à fait.
Vous pouvez.
J'entends bien que le parquet est indivisible, mais en même temps, je me suis toujours vécu comme un être singulier dans ce processus-là. J'ai connu des affaires où j'ai requis des acquittements en appel, ce qui m'a parfois créé des problèmes, notamment dans une affaire qui a surgi en Nouvelle-Calédonie. Franchement, je n'aurais pas hésité. À partir du moment où j'aurais eu la certitude et absolue de la validité de ma position.
Alors, ce qui rend cette affaire unique au point que je la raconte 25 ans après, c'est le milieu social. Tout de même, parce que au fond, cette affaire se serait déroulée dans un milieu social extrêmement défavorisé, sur fond de misère, sur fond d'alcool, sur fond de violence conjugale. Probablement qu'on n'en aurait jamais parlé. C'est une affaire qui démontre que ça peut arriver dans n'importe quel milieu.
Bien sûr, et d'autant plus que, je le répète parce que ça me semble important, là, nous étions dans un couple avec un petit bébé qui était greffé sur un socle de désillusions, de douleurs, de traumatismes, et notamment de la part de chez Magali Guimaud. Lui, c'était autre chose. Jérôme Duchemin, c'était l'agité, l'excité, le nerveux. Et d'ailleurs, comme c'est très bien dit, il s'interrogeait parfois sur ce qu'avait pu provoquer une certaine excitation, énervement dans la tenue de ce petit. Est-ce qu'il n'aurait pas causé des traumatismes? C'était très important qu'il s'interroge. Mais c'est vrai que ce couple était très singulier et il a débouché. Et j'ajoute que, si vous le permettez, Christophe Ondelat, j'ai fait aussi quelque chose que j'avais très rarement fait. J'ai fait venir un autre expert comme témoin, parce que j'estimais que les analyses psychiatriques et psychologiques au dossier étaient trop faibles. Et donc j'ai fait venir Michel Dubec, expert reconnu, comme témoin pour qu'il vienne apporter son point de vue après qu'il a pris connaissance des rapports qui se trouvaient au dossier.
C'est une affaire sans preuve. Et donc, vous ne pouvez vous-même que vous baser sur votre intime conviction.
Une affaire sans preuve, Christophe Ondelat.
Il y a l'expertise des médecins.
Oui, c'est fondamental. Si vous voulez dire qu'on n'avait pas l'aveu d'un des deux, en tout cas de Magali Guimaud, c'est clair. Mais à partir du moment où, pour moi, l'aveu n'a jamais été la reine des preuves, même si, bien sûr, je l'aurais accepté, eh bien, j'étais naturellement amené à me fonder non seulement sur les éléments médicaux, mais sur l'analyse psychologique qui semblait correspondre à la réalité du dossier, notamment ce clivage absolu entre le couple qui est là, il n'y a pas de violence, Magali Guimaud se retrouve seule, il y a des violences.
Ça n'est un secret pour personne, ça fait un moment maintenant que vous êtes à la retraite, vous êtes un homme de droite, vous êtes ce qu'on appelle un réac.
Oui, et absolument.
On peut être surpris de voir un réac demander une peine de 10 ans pour une mère qui a tué son enfant.
Christophe Ondelat, si vous le permettez, je ne me perçois pas comme un homme de droite, mais très justement comme un réactionnaire, c'est-à-dire un être qui a le droit de choisir au nom de sa liberté les positions qu'il estime les meilleures. Alors, pour aller dans votre sens, de droite ou de gauche, d'humanisme ou non, et donc il est évident que, en tant qu'avocat général, j'étais davantage préoccupé par la vérité d'une affaire, la vérité d'un crime et la psychologie que par une quelconque idéologie qui n'a rien à faire aux assises.
Et donc, vous pouvez, vous qui êtes réac, concevoir qu'une mère tue son enfant, disant, finalement, sachant qu'elle en a fait 5, c'est pas grand-chose.
Non, je ne peux pas concevoir, bien sûr, en tant qu'être humain, qu'on tue son enfant ou qu'on lui fasse subir des violences répétées. Mais je suis passionné par la psychologie, non seulement criminelle, mais humaine en général. Et bien sûr, je comprends, comme vous, sans doute, si vous étiez confronté à la même tension, au même drame, comment on peut arriver à des choses sans jamais les justifier. Et c'est un grand bonheur sombre et tragique que d'expliquer aux jurés comment un crime est commis.
Et je voudrais qu'on parle maintenant de cette affaire dans l'affaire, qui est cette libération à 3 reprises de Magali Guimaud dans le processus. Elle est écrouée, son mari est libéré, parce qu'a priori, la juge d'instruction a l'intuition que ça n'est pas lui et que c'est plutôt elle. Elle obtient sa libération. Elle était à nouveau libérée après sa condamnation aux assises, alors que l'appel aux assises n'est pas suspensif de l'exécution de la peine. Néanmoins, elle est libérée, et elle est surtout, de manière hallucinante, libérée alors qu'elle se pourvoit en cassation et qu'elle a été définitivement condamnée. Donc, triple libération, derrière lequel certains, à l'époque, ont vu la main de la franc-maçonnerie. Paul Lombard, l'avocat de Magali Guimaud, était franc-maçon, c'était de notoriété publique, et on a dit qu'il avait attendu qu'un de ses frères maçons soit en charge du dossier pendant les vacances pour déposer sa demande et l'obtenir efficacement. Est-ce que c'est une théorie que... Alors, que vous suivez?
Ces libérations m'ont totalement surpris. Je les ai même trouvées scandaleuses. Je pourrais dire, pour ne pas répondre frontalement à votre question, que les libérations, à la limite, auraient pu justifier par le caractère singulier de l'accusé.
Elle n'est pas dangereuse.
Voilà, statut social. Mmh. Bon, mais je vais plus loin. Je ne sais rien sur la franc-maçonnerie. Je sais simplement que mon ami Paul Lombard, que j'ai beaucoup connu sur la fin de sa vie, avait un immense réseau, des relations à droite et à gauche, et que probablement elles ont joué. Voilà. Quant à savoir si c'est la franc-maçonnerie qui, par cette connivence tout à fait scandaleuse, aurait permis d'obtenir les libérations, je ne peux pas l'affirmer formellement.
Moi non plus, mais cette hypothèse existe. Vous n'avez pas été témoin pendant votre carrière de collusion au sein de l'institution judiciaire avec la franc-maçonnerie.
J'ai pu supputer parfois des choses, mais...
Vous supputâtes.
Voilà, mais je ne peux pas être formel et je ne serais pas capable de vous donner un exemple avec une totale certitude.
Pour terminer, Philippe Bilger, vous avez été pendant toute votre carrière un acteur important de la cour d'assises qui aujourd'hui est partiellement remise en cause puisque dans le projet de loi que défend actuellement la garde des Sceaux, il est question qu'une grande partie des affaires qui vont actuellement devant la cour d'assises aillent devant un tribunal criminel départemental constitué de juges professionnels dans le but d'aller plus vite, de désengorger la liste d'attente dans les cours d'assises qui est important. On voit que Magali Guillemot est jugée 6 ans après les faits devant la cour d'assises de Paris, c'est la moyenne actuellement devant les cours d'assises en France. Est-ce que vous soutenez cette démarche de la garde des Sceaux ?
Ah non, au contraire. Je la déplore très vivement. Déjà depuis quelques années, je sens qu'on veut retirer la solennité de la cour d'assises en la constituant peu à peu comme une super correctionnelle. Mais qu'est-ce que c'est que ce tribunal criminel qui éliminera les jurés, les citoyens, pour des crimes allant jusqu'à 20 ans et qui les gardera au-delà? C'est une absurdité. On ne garde pas le peuple de manière hémiplégique. C'est une chance de l'avoir en cour d'assises. On le garde tout le temps. J'ajoute, et j'ai terminé là-dessus, que c'est d'autant plus paradoxal qu'on nous a, pardon l'expression est vulgaire, bassiné depuis des mois avec l'importance et la gravité d'atteinte aux femmes et notamment les viols, qui sont évidemment les atteintes les plus graves, et on supprimerait les citoyens pour ces affaires où les viols vont être jugés. C'est un projet très néfaste. La seule tranquillité que j'ai, apparemment, c'est que c'est une expérimentation, mais qui peut durer 3 ans. Mmh. Et en 3 ans, on peut faire beaucoup de dégâts en éliminant le peuple.
Mais qu'est-ce qui vous fait dire que les jurés seraient plus justes, meilleurs que des magistrats dont vous avez fait partie?
Pardon, Christophe Fondelat, je vais être obligé pour une fois de tomber dans un narcissisme professionnel parce que je l'ai constaté durant plus de 20 ans. Le jury populaire, à Paris ou ailleurs, on peut parfois discuter ses décisions, mais quand on veut bien réfléchir, le jury populaire est fondamental pour le jugement des affaires criminelles parce que la procédure criminelle longtemps a été faite pour lui. C'est cela qu'il y a de formidable.
Parce que c'est basé sur l'intime conviction et qu'au fond, un magistrat est plus désorienté sur la question de l'intime conviction qu'un homme ordinaire.
L'intime conviction, ça ne veut pas dire n'importe quoi. L'intime conviction, c'est une conviction certaine qui longtemps n'a pas eu besoin d'être motivée. Ça veut dire que la cour d'assises permet à un jury populaire, même s'il ne connaît pas le droit d'ailleurs, il y a très peu de notions juridiques en cour d'assises, de porter sa sensibilité, son intelligence, et dans le cadre d'une délibération collective indépassable, elle existe en cour d'assises, d'aller vers la vérité judiciaire et le plus souvent, à mon avis, vers la vérité tout court.
Ça n'est pas le président de la cour d'assises qui façonne le verdict en manipulant les jurés ?
Peut-être que ça a été le cas durant des années, et malheureusement c'est parfois encore le cas, je le crains, dans des cours d'assises de province, mais je peux vous dire, Christophe Fondelatte, que durant, avec mon expérience, j'ai parfois j'ai constaté que des présidents ne dégradaient plus leur savoir en pouvoir, et que même parfois j'avais l'impression qu'ils protégeaient davantage les droits de la défense que ceux de l'accusation.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.